Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants, NCS et Fugue. Au programme, la discrimination par la porte d'en arrière et la santé mentale des personnes LGBTQI+, en Croatie et en danger. Bonne écoute.
La discrimination par la porte d'en arrière. Un texte de Laila Benadjouja et Laila Sélis, paru le 18 mars 2022 dans la revue Nouveau Cahier du Socialisme. À partir des théories de la colonialité du pouvoir, nous proposons une lecture des effets socio-économiques du débat et de l'adoption de la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État, sur les groupes ciblés, particulièrement des femmes musulmanes et racisées. Par cet article, nous voulons contribuer à mettre en lumière l'un des angles négligés dans les analyses critiques du nationalisme identitaire au Québec, à savoir les effets simultanés du racisme, du capitalisme et du patriarcat dans le vécu des personnes racisées. De la colonialité. L'une des thèses centrales des théoriciennes et théoriciens décoloniaux est que la colonialité n'est pas un événement historique limité dans le temps, mais un processus qui a encore lieu présentement, c'est-à-dire que la structure des rapports de pouvoir que nous connaissons à l'échelle globale se base sur les rapports de pouvoir construits progressivement à partir de 1492, sur la douloureuse expérience socio-historique du colonialisme et de l'esclavage. L'eurocentrisme chrétien imposé par les colonisateurs aux Autochtones des Amériques par la colonisation et aux Noirs par l'esclavage a participé à configurer des catégories et des identités de race, de genre et de sexualité, des catégories sur lesquelles s'exerce le pouvoir aujourd'hui. Alors que le colonialisme classique, avec siège dans la métropole, s'est transformé, donnant lieu à d'autres modalités et structures de domination, protectorat, néocolonialisme exercé par des moyens économiques, etc., la colonialité inscrite dans les rapports de pouvoir peut se définir comme la radicalisation et naturalisation de la non-éthique de la guerre. Construction de la hiérarchisation. Comme l'ont montré les féministes autochtones noires et chicanas, les catégories de race, de genre et de sexualité assignent un statut d'infériorité aux groupes racisés et ethnicisés et imposent des régimes oppressifs. Capitaliste, racial, genré, hétérosexiste. Autrement dit, la colonialité constitue le lieu d'énonciation qui rend possible un système monde basé sur de nombreuses hiérarchisations qui opèrent à la faveur de l'homme blanc européen chrétien. Ramon Grosfouguel résume ainsi ces hiérarchies. 1. Hiérarchie de classe. 2. Division internationale à l'ethno-raciale globale. 5. Hiérarchie de genre. 6. Hiérarchie sexuelle. 7. Hiérarchie spirituelle à la faveur des chrétiens. 8. Hiérarchie épistémique. 9. Hiérarchie linguistique, langues européennes versus non-européennes. La menace musulmane. Au Québec, les débats sur la loi 21 ont contribué à stigmatiser davantage des communautés et des individus déjà fortement affectés par le racisme et la discrimination, et plus spécifiquement les femmes musulmanes, les communautés juives et sikhs. Ces débats sont survenus dans un contexte où l'islamophobie et la violence contre les musulmans et les musulmanes ont pris une ampleur alarmante. Ils s'inscrivent en continuité avec les discussions antérieures sur les accommodements raisonnables 2006-2008 et sur le projet de loi 60, souvent dénommé « Charte des valeurs » en 2014, des moments qui ont tous servi à ventiler des discours racistes de plus en plus ouverts et qui participaient à construire une image des minorités religieuses et plus spécifiquement des musulmans et musulmanes comme étant une sérieuse menace pour la société québécoise. Dans ces discours, l'image des femmes voilées est construite sur une dualité contradictoire qui présente celles-ci tantôt comme les vecteurs redoutables de l'islamisme qui tendent à radicaliser les jeunes et tantôt comme des femmes soumises et par ce fait représentant un recul pour les droits des femmes québécoises. Vous écoutez « La discrimination par la porte d'en arrière ». Un texte de Leila Benad-Djoudja et Leila Sellis paru le 18 mars 2022 dans la revue Nouveau cahier du socialisme. Les figures d'autorité. Lors de l'étude de la loi 21, un échange qui illustre le fonctionnement contemporain de la colonialité du pouvoir a eu lieu. L'échange mettait en scène des figures d'autorité importantes. Le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, l'autorité politique, d'une part, et le sociologue émérite du Québec, d'autre part, l'autorité scientifique. Guy Rocher prenait le contrepoids de l'historien Gérard Bouchard, opposé à la loi 21, qui avait insisté sur le manque de preuves scientifiques concernant l'éventuel endoctrinement des élèves de la part des enseignantes portant le hijab. À la défense du ministre, Guy Rocher a avoué qu'on ne peut pas faire la preuve scientifique de la mauvaise influence des professeurs qui portent des signes religieux, mais que, dans l'état d'incertitude, il fallait appliquer le principe de précaution contre les risques possibles pour protéger les élèves, les enseignantes et enseignants et les parents. Ce dialogue télévisé entre deux importantes figures d'autorité qui discutent sur la preuve du danger que représentent les musulmans et les musulmanes ne peut qu'encourager les propos injurieux, racistes et les actes discriminatoires et haineux déjà à la hausse. Le rituel et le langage. Les rapports coloniaux de pouvoir ainsi performés ont gagné en acceptabilité par la force de leur répétition dans une sorte d'itération offensive, pour reprendre l'expression de Judith Butler. La réalisation de ce rituel a été orchestrée par l'État à travers la mise en scène répétée des commissions dans un contexte où la division entre le laïc et le religieux a, en fait, fonctionner comme une ligne de couleur qui marque la différence entre l'Occident moderne et éclairé et des musulmans musulmanes tribaux et religieux. La loi 21 constitue désormais la mise en acte qui rend concevable et acceptable de retirer un droit fondamental à des minorités religieuses racialisées au nom d'un danger dont il n'est plus nécessaire de faire la preuve. Racisme, sexisme et inégalité. La colonialité du pouvoir porte en elle une logique économique qui participe à organiser le capitalisme à l'échelle globale et la distribution mondiale du travail à la faveur de l'Europe. Elle a produit le système monde capitaliste où la main-d'œuvre bon marché, « cheap labor », se trouve dans les périphéries selon une distribution racisée et genrée du travail qui opère de façon à positionner les descendantes et les descendants des sociétés colonisées et mises en esclavage en bas de l'échelle économique. La hiérarchisation des relations raciales, sexuelles, spirituelles, épistémiques et de genre sont constitutives de ce système monde capitaliste. À l'ère néolibérale, on assiste à une accélération des inégalités entre le sud global et le nord global, où les femmes racisées sont particulièrement affectées. Les logiques du capitalisme global créent un besoin de main-d'œuvre bon marché que les femmes issues du sud global doivent combler. Il n'est donc pas imprudent de parler d'une surreprésentation des femmes racisées dans les emplois précaires, femmes de ménage, services et restauration, gardes d'enfants, etc., des grandes villes du centre. Les femmes de couleur se retrouvent confinées au double travail reproductif, payé et non payé, et cela est rendu possible par des mécanismes relationnels et imbriqués de race et de genre, dont l'analyse est souvent absente dans les perspectives féministes classiques. Dans les représentations dégradantes de la féminité racialisée qui découlent de l'esclavage et du colonialisme, les femmes racialisées sont considérées comme aptes à faire les tâches ingrates. Les effets structurels de la division du travail sont alimentés par des mécanismes oppressifs de racisme et de sexisme qui se cachent derrière le discours des compétences ou de l'éducation. D'expérience québécoise. Au Québec, les stéréotypes négatifs dominants sur les femmes portant le hijab, qui ont acquis une légitimité juridique grâce à la loi 21, participent à une logique raciste, patriarcale et capitaliste qui précarise les femmes musulmanes en les rendant davantage exploitables. Cela ne fera que renforcer les inégalités sociales qui affectent particulièrement les immigrantes issues d'anciennes colonies, dont les femmes musulmanes. En effet, au Québec, ces femmes immigrantes racisées sont surreprésentées dans les emplois précaires et dévalorisées comme la garde d'enfants et les soins des personnes âgées. Paradoxalement, les féministes nationalistes, que Faris qualifie de fémo-nationalistes, se sont peu efforcés de dénoncer les conditions socio-économiques précaires des femmes racisées et musulmanes et ont, elles aussi, mis l'accent sur le danger du hijab. Vous écoutez « La discrimination par la porte d'en arrière », un texte de Leïla Benadjouja et Leïla Sélis, paru le 18 mars 2022 dans la revue « Nouveau cahier du socialisme ». Les résultats. Les exclusions prévues dans la loi 21 sont l'aboutissement de plusieurs tentatives de marginalisation économique des femmes musulmanes, puisqu'il était déjà question pendant le débat autour de la Charte des valeurs de leur interdire le travail dans les milieux de garde d'enfants. Or, le travail en milieu de garde offre plusieurs possibilités aux femmes racisées, ce qui leur permet de contourner les effets de la discrimination à l'embauche. En étant à leur compte ou en travaillant avec d'autres femmes racisées et leur donne la possibilité d'un emploi à temps partiel localisé dans les quartiers qu'elles habitent afin de conjuguer travail et responsabilité familiale. Une étude dont l'objectif était d'établir le profil des femmes de l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal a démontré que le lieu de naissance à l'étranger et la langue maternelle précarisent davantage certaines femmes. 78,1% des répondantes ont un revenu de moins de 30 000 $ par année. Le pourcentage augmente à 81,1% lorsqu'on considère les femmes nées à l'extérieur du Canada. Le pourcentage augmente à 89,5% pour les femmes nées à l'extérieur du Canada et parlant l'arabe. Malgré le fait que les répondantes de notre échantillon soient souvent plus scolarisées que la moyenne québécoise, le revenu se loge dans les catégories les plus faibles. L'impact du faible revenu est d'autant plus important si l'on tient compte du fait que les logements où le nombre d'habitants est le plus élevé se situent dans les catégories de revenus les plus faibles, entre 2 et 6 personnes. Conclusion. Même si le gouvernement québécois a présenté la loi sur la laïcité de l'État comme une mesure progressiste et modérée, Celle-ci permet plutôt d'institutionnaliser le sexisme, le racisme et la discrimination à l'emploi. Le racisme ambiant, amplifié par le débat sur la loi 21 et les mesures concrètes établies par cette loi, consolide les hiérarchies économiques et les mécanismes d'inégalité constitutifs de la colonialité. Cette loi fait partie d'un processus à travers lequel le gouvernement de la coalition Avenir Québec fait la promotion d'une société exclusive marquée par des écarts socio-économiques importants et stables, processus dont fait aussi partie la législation en matière d'immigration qui, entre autres, vise à la fois à réduire le nombre d'immigrants et d'immigrantes et à augmenter la « bonne » immigration, c'est-à-dire celle des Européens et Européennes. On assiste un peu partout à une multiplication des lois visant les musulmans et les musulmanes. Il suffit de rappeler le décret du président états-unien Donald Trump « Protéger la nation de l'entrée de terroristes étrangers » en 2017, la loi de 2004 sur les signes religieux dans les écoles publiques en France, l'interdiction de construction de minarets en Suisse ou, pire encore, la nouvelle loi sur la citoyenneté en Inde en 2019. Dans tous ces cas de figure, un groupe dominant discute, statue et légifère sur les droits d'une minorité. Ce qui nous apparaît le plus inquiétant, ce sont les processus qui non seulement ont rendu possible ces lois, mais surtout la manière dont ces processus déplacent le curseur de l'indicible en matière d'actes et de discours sur les musulmans et les musulmanes. Finalement, les différents débats sur les minorités religieuses menés par le groupe dominant de la société au nom des valeurs d'une société québécoise, dont l'épisode de la loi 21 participe à une subalternisation de groupes et de personnes racisées. La subalternisation en question opère en même temps que le renforcement d'une place privilégiée pour les Québécois et les Québécoises de descendance européenne. Les places contraires occupées par les subalternes et les privilégiés renvoient ici à une dynamique relationnelle qui, d'un côté, construit les aspects symboliques où les personnes euro-descendantes sont associées aux bonnes valeurs, à la bonne religion et à la bonne culture. Dans cette construction symbolique, le déni des oppressions historiques que vivent les personnes issues des sociétés anciennement colonisées se fait au profit de la valorisation d'une certaine culture québécoise construite comme blanche et euro-descendante. L'autre aspect de la dynamique qui construit les subalternes et les privilégiés est la transformation de ce capital symbolique et social en bien-être matériel. Les discussions qui ont entouré la loi 21 confortent et consolident les préjugés racistes qui sont à la base des taux de chômage plus élevés des personnes racisées, de leur déqualification professionnelle et de leurs conditions précaires de vie. La loi 21 représente un plafond qui, loin d'être invisible, est ostentatoirement dressé contre les femmes musulmanes. C'était « La discrimination par la porte d'en arrière », un texte de Leila Benadjouja et Leila Selis, paru le 18 mars 2022 dans la revue Nouveau cahier du socialisme.
La santé mentale des personnes LGBTQI+, en Croatie, est en danger. Un texte de l'agence AFP paru le 4 mai 2023 dans le magazine Fugue. Selon une étude publiée le mois dernier, la première du genre dans le pays à grande majorité catholique, 25 % des Croates de la communauté LGBTQI+, ont été agressés physiquement. Victor Zatila a compté. Il a été agressé plus d'une dizaine de fois. Sa faute, être gay en Croatie, où les discriminations contre les membres de la communauté LGBTQI+, sont rampantes et alimentent de graves inquiétudes pour leur santé mentale. Ce réalisateur de court-métrage de 38 ans, pionnier de la lutte pour les droits des personnes LGBTQI+, dans le petit pays conservateur des Balkans, explique que la plupart des agressions ont été commises dans la capitale, Zagreb. Mais il a également subi, ainsi que son petit ami de l'époque, un passage à tabac extrêmement violent dans une localité touristique de la côte adriatique, voici deux décennies. « Ils nous ont massacrés littéralement », raconte-t-il à l'AFP. « Cela a duré si longtemps que je m'étais dit, c'est la fin, je ne vais pas survivre. » Cette agression et d'autres sont à l'origine d'un stress post-traumatique qui l'a longtemps affligé. Si un type à l'air macho me croise dans la rue, mon cœur se met à battre plus vite. Je deviens pâle, paralysé, dit-il. Au bout d'un moment, je me rends compte que c'est juste un type qui passe par là, mais j'ai l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Ce genre d'expérience n'est pas rare en Croatie. Selon une étude publiée le mois dernier, la première du genre dans le pays à grande majorité catholique, 25 % des Croates de la communauté LGBTQI+, ont été agressés physiquement. Le rapport relevait également que près des trois quarts des membres de la communauté LGBTQI+, interrogés, avaient eu des pensées suicidaires et plus de 15 % ont fait des tentatives de suicide. On savait que les chiffres allaient être inquiétants, mais c'était quand même une très mauvaise surprise, souligne Daniel Martinovic, porte-parole de Famille Arc-en-Ciel, l'ONG autrice de l'étude. Données alarmantes. Ils sont alarmants, dit-il, ajoutant que les données laissent à penser qu'une grande partie de la communauté subit des niveaux élevés de stress. L'étude relève aussi que les trois quarts des personnes LGBTQI+, ont subi des discriminations flagrantes au travail dans les institutions publiques et les établissements médicaux. Les données montrent clairement que dans notre société, les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles ne se sentent pas en sécurité, égales, respectées et protégées, dit Matea Popov, l'une des chercheuses ayant participé à l'étude. Avoir constamment la peur au ventre. Être persuadé que quelque chose de mauvais va arriver. Commentaires insultants, discrimination ou attaques physiques sont les facteurs qui pèsent le plus sur la santé mentale, jugent les spécialistes. Au cours des 10 dernières années, les droits de la communauté LGBTQI+, se sont progressivement améliorés dans le pays membre de l'Union européenne. Si le mariage entre personnes du même sexe reste illégal, des couples peuvent se déclarer « partenaires dans la vie » depuis 2014, un statut qui leur accorde quasiment les mêmes droits que ceux des couples hétérosexuels mariés. Malgré tout, les traditions ont la vie dure en Croatie, société fondée sur le patriarcat. Les groupes ultra-conservateurs y font régulièrement campagne contre l'avortement et les droits de la communauté LGBTQ. Ils ont réussi en 2013 à lancer un référendum qui a débouché sur l'interdiction du mariage aux couples de même sexe. Pour l'ONG Zagreb Pride, cette mesure a laissé le champ libre à un environnement politique et social négatif, favorable aux discriminations et aux attaques. Vulnérabilité. Pour la communauté trans, l'ambiance est spécialement lourde. Diana Avdic, une femme trans qui vit à Zagreb, explique que la discrimination fait partie de son quotidien. elle a subi un coup violent quand elle a révélé son identité de genre à l'université de Zagreb, où elle étudie la médecine et que les autres étudiants ont pris leur distance. J'ai été confronté à un manque de compréhension, à l'isolement, dit-elle à l'AFP. Je me suis senti vulnérable, exposé. Les choses se passent mal également en dehors de l'université. Une fois à la mairie, un fonctionnaire a refusé de lui fournir un formulaire pour enregistrer son nouveau prénom et l'a accusé de vouloir tromper le monde. « Ça m'a bouleversé », se souvient-elle. Mais à la différence de nombreuses personnes LGBTQI+, en Croatie, elle est soutenue par sa famille, un répit bienvenu. Un habitant de Zagreb de 36 ans, qui s'identifie comme une personne trans non-binaire et a réclamé l'anonymat, explique avoir souffert des réactions de sa famille, mais aussi du milieu médical. La psychiatre m'a dit que tant que j'aurai un prénom féminin et l'initiale plus F plus sur mes papiers, elle me traiterait comme une femme, raconte-t-il à propos d'une hospitalisation récente. Cela m'ennuie de devoir convaincre un médecin que oui, j'existe tel que je suis. C'était la santé mentale des personnes LGBTQI+ en Croatie est en danger. Un texte de l'agence AFP paru le 4 mai 2023 dans le magazine Fugue.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.vcvoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier, Gilbert Lepage à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.